Onde Femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante.
Und femme. Onde Femmes, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, vous entendez en ce moment l'hymne zapatiste de l'armée de libération du Chiapas, hymne que nous avons déjà entendu sur cette antenne à l'occasion du retour chaque fois de femmes qui s'étaient rendues elles-mêmes au Chiapas, d'abord pour la première rencontre intergalactique contre le néolibéralisme. Et puis ensuite, après, à d'autres occasions, et nous avons rencontré à chaque fois Anne Plattner. Bonjour Anne. Et puis nous avons aussi déjà rencontré Pierrette Iselin. Bonjour Pierrette.
Bonjour.
Et toutes les deux étaient au Chiapas en février dernier pour participer comme membres de la Commission internationale sur les droits humains. Commission qui était chargée, elles vont nous l'expliquer beaucoup plus en détail bien évidemment, de faire vraiment le parcours de tout le Chiapas et de constater les violations des droits de la personne. Cette mission était d'autant plus importante évidemment suite au massacre qui avait eu lieu à Noël dans un village chiapanec. Et donc, elles vont nous expliquer pourquoi cette commission a été formée, par qui, qu'est-ce qu'elles y ont fait elles-mêmes, quels témoignages elles ont recueillis, qu'est-ce qu'elles ont vu et comment ce travail était possible, alors qu'on sait, et je l'ai encore lu aujourd'hui dans le journal, que le gouvernement mexicain refuse désormais d'avoir des touristes politiques, c'est-à-dire ce que le gouvernement mexicain appelle ainsi, ce sont les gens qui justement viennent au Chiapas, pas seulement pour se promener, mais pour témoigner de ce qu'ils voient ensuite quand ils rentrent chez eux, et yeux bien trop indiscrets pour le gouvernement mexicain. Alors, Anne et Pierrette, est-ce que vous voulez bien m'expliquer comment s'est formée cette commission internationale sur les droits humains ? Qui était à l'initiative de cette commission ?
Alors Pierrette. En fait, oui, c'était des Espagnols, des camarades espagnols qui étaient venus aussi à la première rencontre et à la deuxième rencontre intergalactique, qui ont eu l'initiative de former cette commission. Ils ont donc fait un appel après le massacre d'Acteal qui a eu lieu donc le 22 décembre dernier dans un village de la commune de Chenalo où sont morts 45 personnes, des femmes, des vieillards et des enfants pour la plupart. Pour que, au niveau international, une commission se déplace à nouveau et aille observer dans quelle mesure, de nouveau, les droits humains sont bafoués au Mexique.
Alors, toi, tu y étais en tant que donc membre du comité de solidarité avec le Chiapas de Lausanne. Anne, toi, tu y étais au nom du collectif Viva Zapata Genève. Est-ce que ça a de l'importance, votre appartenance à ces deux organismes de soutien et de prise de conscience sur ce qui se passe au Chiapas ? Comment ?
Anne ? Non, je ne crois pas véritablement, puisque la commission était vraiment ouverte
à toute personne qui se sentait devoir d'y aller. Et bien entendu, quand on se déplace comme ça, ça a toujours un effet très positif au retour sur les comités, parce que d'entendre la réalité qui a été vue par quelqu'un qu'on connaît a un effet dynamisant sur les comités qui, sinon, ont tendance à toujours s'éloigner un tout petit peu de la réalité, puisqu'ils fonctionnent grâce à des communiqués écrits essentiellement. Et là, d'avoir quelqu'un que l'on connaît bien, qui va sur place et qui ensuite essaye de raconter, de témoigner, c'est très utile pour un comité. Maintenant, dans cette commission, il y avait des gens très variés. Il y avait des gens, entre guillemets, importants, qui étaient mandatés peut-être par des partis, par des ONG, par Amnesty International. Il y avait un certain nombre de juristes. Il y avait même un évêque. Il y avait une variété tout à fait large de gens, avec des formations diverses. Certains n'avaient jamais mis les pieds au Chiapas et ont essayé d'apprivoiser cette situation pour la première fois. Je trouvais que nous étions mandatés. Moi, j'ai été mandatée par Espace Femmes International, par Solidarité et par la COTMEC. Mais ça n'avait pas grande importance, sauf pour les papiers.
La COTMEC, qu'est-ce que c'est? Parce que je crois que nos auditrices et auditeurs connaissent Espace Femmes International.
Tiers monde de l'Église catholique.
Voilà. Et moi, j'étais aussi mandatée par le SSP, donc le Syndicat des services publics au niveau national. Ce qui a quand même une importance, parce que le SSP au niveau national, naturellement, avait suivi les effets du massacre d'Acteal, mais au fond, ils n'avaient pas vraiment pris parti. Et ça a été une occasion pour eux de voir un peu ce qu'au niveau international, les syndicats avaient pris comme position. La CSIL, donc c'est la centrale des syndicats internationaux, avait effectivement pris position contre ce massacre, avait fait une note de protestation au gouvernement mexicain. Et grâce à mon témoignage que j'ai pu publier dans le journal du syndicat, il y a des gens qui ont écrit, il y a des gens qui sont intéressés, il y a aussi des gens qui ont suivi aussi notre protestation.
Justement, quand vous partez là-bas, vous allez nous raconter après votre périple et ce que vous avez pu constater, peut-être choses que vous avez redécouvertes parce que vous ne les aviez pas vues lors de vos précédents voyages, puisqu'en l'occurrence, vous êtes allé déjà au Chiapas. Donc, mais qu'est-ce qu'on attendait de vous au retour? C'était justement ça. Est-ce qu'il y avait une charge très précise au moment du retour pour cette commission?
En fait, oui, on a élaboré à beaucoup, puisque nous étions nombreux. Nous étions 200 représentants d'une série de pays, la plupart d'Europe. C'était adjoint aussi des participants du Canada. Le but, c'était, c'est d'élaborer un dossier sur ce que nous avons pu recueillir comme témoignage au niveau de tous les organismes que nous avons interrogés là-bas au Mexique, et de publier un rapport. Et ce rapport est effectivement fait. Il comprend plus de 200 pages et ce rapport sert maintenant à dénoncer dans la presse, là où c'est possible, toutes les violations qui nous ont été transmises par les intervenants qui nous les ont communiquées. Et aussi, il va être approfondi puisque des membres de la commission récemment sont retournés sur place au Mexique pour représenter le rapport aux gens qui leur avaient transmis et pour encore y ajouter de nouvelles choses. Donc c'est un travail qui va être un travail en sorte permanent, c'est pas un travail qui est fini avec simplement le retour de la commission.
Oui, il faudrait préciser peut-être qu'à l'origine de la commission, il y a eu bien entendu toute cette émotion qu'a suscité le massacre. Depuis un certain nombre de mois, on n'entendait plus beaucoup parler du Chiapas. Et le massacre a été une sorte de révélateur de tout ce qui se passait là-bas, qu'on savait vaguement, mais dont on n'imaginait pas que c'était aussi impressionnant. Et à l'origine de la commission, il y avait le fait que le Mexique était très désireux et est toujours très désireux de signer un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Un accord du type de celui qui a été de celui de l'ALENA qui a été signé de l'autre côté de l'Atlantique. Mais pour pouvoir signer le contrat de cet accord, il y a une clause dite démocratique, c'est-à-dire que ceux qui signent le contrat s'engagent à respecter les droits humains. Et un des buts de la Commission, c'était de faire pression sur l'Union européenne pour qu'elle ne signe pas cet accord de libre-échange tant que la situation des droits humains au Mexique était aussi catastrophique, spécialement au Chiapas. Et il fallait le prouver noir sur blanc en allant voir sur place, enfin en tentant de le faire.
Alors vous nous direz tout à l'heure quels furent ensuite les contacts avec l'Union européenne, ce sera intéressant de savoir. Mais je crois qu'effectivement il est urgent que vous commenciez à nous raconter votre périple et ce que vous avez constaté. Alors l'idée était quoi? Que parmi les 200 membres de la commission, tout le monde serait parti sur le territoire et aille vraiment dans chaque village, chaque communauté du Chiapas?
Oui, c'était à peu près l'idée. C'est-à-dire que sur 200 personnes, il a été possible de créer des groupes. Là, c'était une très grande commission qui fluctuait. Les gens n'étaient pas forcément toujours associés aux mêmes personnes. Et bon, nous nous sommes déplacés dans des vieux cars sur pratiquement toutes les routes du Chiapas. Alors, les objectifs étaient essentiellement d'aller voir les 5 Aguas Calientes où avaient eu lieu les rencontres, qui sont toujours des lieux symboliques, de passer également dans toutes les communautés où on savait qu'il y avait eu des problèmes, et d'essayer d'arriver jusqu'à la zone nord du Chiapas, qui est la zone la plus périlleuse et où la situation est la plus dramatique, dans laquelle les paramilitaires sont les plus puissants. Alors on a réussi à envoyer quelques cars, il y avait 2 routes dans la zone nord qui ont été couvertes. Et ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que sur une de ces routes, la commission a été arrêtée par des paramilitaires, sous les yeux d'ailleurs de la police qui a laissé faire. Les gens ont subi des menaces et ils ont décidé de rebrousser chemin parce que c'était vraiment trop dangereux. Et à un autre endroit dans cette région du nord, Attila, il y a eu un événement qui nous a tous impressionnés, c'est qu'un des jeunes Indiens qui était venu témoigner, qui avait marché 6 heures pour venir devant la commission, à son retour a été attaqué et a été assassiné sur le chemin du retour après avoir témoigné. Donc ceci se passait au nord. Sinon, on a réussi à couvrir pratiquement toutes les localités importantes. Et même quelquefois, certains membres de la commission ont fait 6 heures de marche dans la montagne pour aller trouver certains camps de réfugiés. Et ça, on en parlera aussi après.
Il faut dire encore, rajouter que ce n'est pas seulement Rosetila López García, qui était représentant d'une communauté du Nord, qui a été assassinée après avoir vu la commission, mais il y a eu un deuxième assassinat après que la commission a visité l'Aguas Calientes de Roberto Barrios, où un deuxième témoin a été aussi assassiné quelques jours après. Il s'appelait lui Trinidad. Et ça prouve dans quel état de tension nous étions au Mexique.
Alors, peut-être aussi, il faut clarifier ça. Quand on dit état de tension, on parle de massacre. Peut-être il y a toujours parmi nos auditrices et auditeurs des gens qui ne connaissent pas quelles sont les forces en présence à l'heure actuelle au Mexique. Et peut-être il est bon de le rappeler. Donc, dans les dernières nouvelles que vous nous aviez données, par les rencontres, les deux rencontres intergalactiques, on avait appris que donc l'armée de libération du Chiapas avait tenté d'avoir des négociations avec le gouvernement mexicain pour défendre les droits du peuple indigène du Chiapas, enfin des Indiens en général, de l'Amérique du Sud, du Mexique. Et puis, dans un premier temps, il y avait eu vaguement un accord et qui n'a en fait jamais été appliqué, et des ruptures de négociations plus moyennes de continuer à parler. On en était resté un peu dans cette situation-là. Les choses se sont terriblement aggravées, vous l'avez dit, un massacre dont on accuse des groupes paramilitaires qui auraient été, eux, armés par le parti au pouvoir, c'est ça ?
Par le PRI.
Voilà.
Effectivement, l'assassinat a été perpétré par un groupe paramilitaire qui est lié au PRI, Parti Révolutionnaire Institutionnel, qui est au pouvoir au Mexique depuis plus de 70 ans. Et dans ce massacre, la responsabilité du gouvernement mexicain est directement engagée, et elle est écrasante d'ailleurs. L'armée mexicaine a mis en marche une stratégie de guerre de basse intensité depuis la fin des années 94. Et pendant ce temps-là, les porte-paroles officielles racontent à qui veut bien l'entendre que le gouvernement recherche une solution pacifique au conflit. Et cette guerre de basse intensité est une des modalités non conventionnelles de la guerre contre la subversion que le gouvernement mexicain exerce. Et c'est une stratégie du pouvoir pour anéantir toutes les sympathies et l'appui social dont un groupe comme les EDLN peut bénéficier dans le pays.
Ça veut dire quoi donc très concrètement de basse intensité ?
Il s'agit d'enlever l'eau aux poissons pour qu'ils ne puissent plus agir. Hein. Ça veut dire encerclement militaire. Et l'encerclement militaire laisse échapper l'eau, la base d'appui des apatistes. Et le peu d'eau qui reste, la direction politique des apatistes est de plus en plus isolée. Et depuis 95, depuis février 95, où il y a eu déjà une offensive du gouvernement, les réseaux sociaux d'appui de les EDLN ont décimé et divisé des familles entières. Et aujourd'hui, ces réseaux existent, mais ils sont sous total contrôle militaire. Il y a plus de 70 000 militaires dans la zone. Et avec la pression des groupes paramilitaires qui interviennent dans les communautés et qui brisent, qui saccagent, qui assassinent, les communautés sont exsangues, elles sont au bout, elles ne peuvent plus communiquer, elles ne peuvent plus fonctionner. Et à l'heure actuelle, on peut dire que le Chiapas, c'est un vaste champ de guerre où plus de 10 000 réfugiés fuient leur communauté et où les communautés apatistes fuient aussi leur foyer, laissant derrière elles la désolation et la mort. Donc nous avons trouvé une situation très, très, très grave.
Anne, tu me disais quand tu m'as proposé que nous fassions cette émission que 70 000 militaires, ça veut dire pratiquement pour un habitant, c'est quoi, 10 soldats,
c'est
l'impression que tu avais, pour qu'on se représente ce que ça veut dire d'importance de la présence militaire.
Alors si on parle de l'armée, oui, les chiffres sont assez hallucinants. 70 000 militaires, ça représente à peu près dans certaines régions. La présence n'est pas aussi forte partout, hein, n'est pas égale partout, mais dans la région de Los Altos de Chiapas, c'est donc même pas au nord, c'est une région où maintenant il y a le plus de problèmes, il n'y avait pas avant, il y a à peu près un soldat par famille. Ça représente une proportion énorme.
Un sur quatre, un pour quatre personnes.
Oui. Mmh. Et la population totale du Chiapas, qu'est-ce que c'est, 3 millions et 70 000 militaires qui sont, effectivement, on les a vus, c'est pas la première fois, mais ce sont généralement des gens très jeunes et ce sont des indigènes qui ont été amenés d'autres régions très souvent. Et on les voit, bon, pendant que nous étions là, ils se sont... tenus à carreaux, je pense qu'ils avaient reçu des ordres pour n'être pas trop apparents. Donc on les a relativement peu vus. Bon, quand on voyage, on voit les campements, et je crois qu'il y a à peu près 70 campements militaires dans le pays. Dans l'État, il y a une vingtaine de casernes. Et un autre système qu'ils ont l'air d'avoir perfectionné s'appelle les barrages sur les routes. Et de ceci, les gens souffrent beaucoup parce qu'ils ne peuvent plus, comme a dit Pierrette, se déplacer, ni pour aller porter leur marchandise, ni pour tout simplement aller aux nouvelles, hein, parce qu'ils sont arrêtés sur les barrages où ils doivent présenter leurs papiers. De toute façon, ils sont humiliés en route où on leur prend ce qu'ils ont. Cette présence-là, bon, on a pu constater simplement en voyageant. On voit les casernes, on voit les mitrailleuses, on voit toutes sortes d'ouvrages le long des routes dont on se demande à quoi ils servent. Mais c'est très évident à celui qui voyage déjà. Par contre, donc, pendant qu'on était là, on a essayé. La commission avait pour but de parler avec tous les acteurs. Et un des acteurs importants, bien entendu, c'est l'armée, puisqu'on peut dire que c'est pratiquement l'armée qui a le pouvoir au Chiapas. Et quand nous avons essayé d'avoir des rendez-vous avec eux, rendez-vous qui étaient demandés très formellement, je crois que c'est la seule instance qui ait refusé de nous parler. Alors, soit au plus haut niveau, à Tuxtla Gutiérrez, où on avait demandé une entrevue avec le général Castillo, qui s'occupe de tout l'État, soit sur les petites casernes plus petites. Là, chaque fois, le chef était en train de dormir et les militaires avaient ordre de ne pas nous répondre. Donc, on n'a pas pu dialoguer avec eux, alors qu'on a même eu une entrevue avec des paramilitaires. Ceci a eu lieu.
Quand tu dis tous les acteurs, donc tu dis l'armée, ça aurait été un acteur évidemment très important. Tu parles maintenant des paramilitaires. Donc, dans votre liste, quand vous dites acteurs, ça veut dire quoi? Vous vouliez avoir l'avis, l'opinion, le point de vue de tous les gens concernés par ce qui se passait au Chiapas?
Exactement. On voulait avoir un point de vue même très, très vaste et plus ou moins neutre, parce qu'en fait, c'était aussi une des garanties pour qu'on puisse mener notre travail. Dès le début, il y a eu une pression très forte contre la commission, une sorte de xénophobie qui s'est développée, et le travail de la commission a failli ne pas se poursuivre. On a dû donner une série de garanties, donc ça voulait dire ne pas prendre position immédiatement et interroger tous les acteurs qui sont autour du conflit du Chiapas. Alors c'était effectivement toutes les communautés, le congrès indigène, la CONAI qui représente donc, qui est un organe d'intermédiation entre les apatistes et le gouvernement, et la COCOPA, mais aussi des instances gouvernementales, donc le gouverneur du Chiapas et d'autres instances qui représentaient le gouvernement. Et aussi la Commission officielle des droits de l'homme de Mexico, qui est une sorte de commission plus ou moins que le gouvernement met toujours en avant quand il veut montrer qu'en fait il défend les droits de l'homme, mais qui elle-même n'est pas tout à fait objective.
L'Église
L'Église était représentée justement par la CONAI, puisque c'est Don Samuel Ruiz qui sert d'intermédiaire. Nous les avons vus comme les autres. Simplement, ils ne nous ont pas suivis, ils ne sont pas occupés de nous plus spécialement que d'autres, parce que ce n'était tout simplement pas possible. Il fallait aussi qu'ils restent à leur place, pour ainsi dire. Je crois que Pierrette a oublié de parler des prisons que nous avons pu voir aussi. Certaines organisations civiles qui sont les organisations qui font le lien avec les communautés apatistes. Nous avons demandé à voir les ZLN. Et simplement là, pour la petite histoire, mais c'est quand même significatif, le subcommandante Marcos nous a écrit un message tout au début pour nous dire que il nous remerciait beaucoup d'être venus, que de leur point de vue c'était une action extrêmement utile, mais qu'évidemment il fallait que nous comprenions que pour eux c'était pas possible, pour eux j'entends pour la commandantia, pour les chefs, c'était impossible de nous recevoir personnellement cette fois, pour la bonne raison qu'ils sont tout le temps en train de se cacher. Et par la suite, ils nous envoyaient une vidéo dans laquelle il répond aux nombreuses questions que la commission lui posait. Mais il n'a pas été possible de les voir parce que En fait, partout où nous sommes allés dans les communautés, ça, je crois que ça nous a beaucoup frappé. On a été reçus constamment par les gens les plus petits, hein, par les plus humbles, qui chaque fois s'excusaient en nous disant, eh bien voilà, il y a seulement nous qui sommes là. Hein, nous sommes les seuls qui restons là. Tous les autres sont cachés, tous les autres sont en fuite. Et nous représentons, enfin nous sommes les interlocuteurs du moment parce que les autres ne sont pas accessibles. Et oui, encore parmi ces instances que nous avons vues, il y a un type d'instance sur lesquelles je voudrais insister parce que j'ai appris quelque chose là-bas. C'est ce qui concerne les municipes autonomes. Je crois que c'est quelque chose qui est peu connu ici quand on parle des apatistes.
Donc les communes autonomes.
Voilà, il faut savoir que à la suite des accords de San Andrés, qui a donc été signé en 96, les apatistes et le gouvernement étaient tombés d'accord sur un certain nombre de points qui concernaient l'autonomie des peuples indiens. Alors du côté du gouvernement, les accords n'ont pas été respectés, mais du côté des apatistes, ils se sont dit on ne va pas attendre que le gouvernement suive, nous on va mettre en pratique ces accords. Et à la suite de ceci, ils ont fondé des municipes ou des communautés autonomes qui ont leur propre système d'élection, leur mode de décision. Et ce sont ces gens-là qui nous ont reçus et qui représentent donc, selon eux, le véritable Chiapas. Mais ces gens nous ont aussi expliqué que tout ce qui est municipe autonome ne reçoit évidemment plus aucun subside du gouvernement. Et c'est actuellement la bête noire du gouvernement parce que c'est eux qui montrent d'une manière concrète ce qui se passerait si les apatistes pouvaient gagner la guerre, entre guillemets.
C'est-à-dire, en fait, une autonomie de la région et qui ferait que le gouvernement mexicain perdrait son pouvoir.
Voilà, c'est une mise en pratique tout à fait efficace et déjà très cohérente et très structurée de ce que les apatistes souhaiteraient faire. Donc, ils ne font pas qu'en parler, mais ils le font déjà.
Avec des méthodes de démocratie directe, de révocabilité des mandats, de prise de décision qui sont toutes discutées par toute la communauté. Alors justement, on peut aussi dire dans les intervenants que nous avons interrogés, nous avons visité pour commencer, un des premiers jours nous étions là-bas, la communauté de Polo. Alors c'est là où se trouve la majorité des réfugiés. Ils sont plus de, dans 8 campements, ils sont plus de 8 à 10 000 sur d'ailleurs un terrain très très restreint, déboisé. Souvent ils n'ont pas de toit, ils n'ont que les feuilles comme gîte.
Ils suspendent leur hamac.
Oui, on peut penser ce que ça va donner dans la saison des pluies. Et nous avons été très frappés parce que quand ils nous ont accueillis, ils ont déployé tout un faste, ils ont tenu à montrer tout le respect qu'il y a autour de leur fonctionnement, justement puisqu'ils fonctionnent comme communauté autonome aussi dans cette communauté de réfugiés. Et ils avaient mis leurs plus beaux habits, mais quand on voyait les conditions dans lesquelles ils étaient, où il n'y a pratiquement pas d'eau potable, où justement les conditions sanitaires sont très très dures, que les conditions d'hygiène et de santé sont totalement détériorées, puisque la Croix-Rouge internationale est interdite dans ces campements par le gouvernement. C'est d'ailleurs une des revendications de ces communautés, c'est de pouvoir avoir accès à la Croix-Rouge internationale.
Bien, je t'interromps. Elle n'est pas interdite, n'est pas vraiment le mot, c'est que la Croix-Rouge, en janvier, a décidé de se retirer tout simplement parce que le gouvernement mexicain leur rendait la tâche trop difficile. Oui. Et comme elle est toujours discrète, la Croix-Rouge s'est peu expliquée sur cette action, mais nous savons qu'elle a conservé ses bureaux à Mexico, mais sur le terrain, elle refuse de continuer à travailler dans les conditions qui lui sont faites. Et ça fait 20 000 personnes qui dépendaient d'elle.
Oui, alors c'est des conditions qui sont aussi aggravées dans la santé. On peut deviner ce que ça veut dire pour les femmes d'accoucher dans de telles situations. Il n'y a non plus pas d'école, les enfants n'ont plus d'école depuis pratiquement 6 à 8 mois. Nous avons été très impressionnés par ce premier camp de réfugiés qui nous ont d'ailleurs accueillis très dignement, mais qui vivent dans des conditions terribles. Ils ont d'ailleurs fait un appel, ils font des appels de solidarité pour qu'on les aide.
Dans le quotidien, non ?
Dans le quotidien.
Alors, je propose que, très concrètement, après, vous nous décriviez, donc, par exemple, pour quelles raisons ces gens sont réfugiés. Et puis, mais tout de suite, nous écoutons une chanson. Anne, tu nous l'introduis juste. Donc, c'est la chanson qui est une chanson, en fait, interdite, prohibidos, et qui situe l'histoire d'un paysan pris entre Clinton et Zedillo. C'est quoi ça ?
Bon, j'ai pas tout compris, mais ce qui m'a frappée, c'est une sorte de plainte du pauvre campesino qui est pris entre Clinton et Zedillo. Je trouve que c'est tout à fait à propos à la veille de l'AMP. Et je continue à expliquer.
Oui, vas-y, brièvement.
Non, tout ce que j'ai entendu, c'est que la personne qui chante se moque un peu des accords de libre-échange pour le petit peuple et pour toutes les conséquences que ça a pour lui. Voilà.
Ce que l'Action mondiale des peuples pose, en particulier le 16 mai prochain, alors que l'Organisation mondiale du commerce veut fêter avec grand bruit les 50 ans de son existence.
Oye, tristeza, vecillas, canto al indio que se humilla. Un imperio los mancilla, son sexos.